Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est pour ma première saison dans l'After. J'ai deux finales anglo-anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
Je souhaite une seule chose. Soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir avant.
Bonsoir.
Alors Johan, bon, t'as l'habitude maintenant.
Merci François. Et ça fera 12 ans sans match de Coupe du Monde.
Salut Zizou.
Merci Zizou.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Johan Crochet, Julien Laurence, Paulo Breitner et Fred Armel. Et drôle de dame, le football étranger le lundi soir sur RMC. Il est 21h03, on est ensemble jusqu'à 22h. Tout à l'heure Gilbert, bien sûr, prendra le relais avec une information à partir de 22h. Soyez au rendez-vous sur RMC avec Daniel Riolo, Stéphane Guy également. Tiens, mercredi prochain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. Nous vous offrons 100 places sur RMC. C'est un événement. Dès aujourd'hui, hein, dans chaque émission d'RMC, chaque semaine, toute la semaine, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des JO, cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres homme ou femme, judo, tennis de table, natation et bien plus encore. Vous envoyez Paris 2024 au 732-16, Paris 2024 au 732-16 et vous aurez une chance hein, d'être tiré au sort et de gagner donc deux places au choix pour les Jeux Olympiques. L'été prochain à 102 jours désormais. Toujours pas d'entrée des échecs aux Jeux Olympiques. Le breakdance a fait son apparition. On verra pour plus tard pour les échecs.
On va expliquer.
C'est un sport. Breakdance.
Breakdance, un sport.
C'est un art physique. C'est un art physique. Il y a un effort. Transpire. Bref. Alors, demain soir, Barcelone, Paris Saint-Germain à Montjuic. Le stade olympique, hein, 92, Marie-Jo Pérec.
Eh oui.
Tout ça, magnifique souvenir. 3-2 à l'aller pour le Barça au Parc des Princes. Comment va le Barça niveau confiance, Fredo? Parce que Luis Enrique a dit aujourd'hui, je voyais ça tout à l'heure, qu'il était convaincu qu'il allait renverser le Barça.
Oui, et au Barça, il y a une confiance, mais modérée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout, pour eux, avoir gagné 3-2 là-bas, c'est un peu comme le Real. Ce sont les sensations qui plaisent, plus que le résultat. Et c'est vrai que la préparation, elle ne pouvait pas être meilleure que pour cette équipe du Barça. Un match à Cadix, un petit entraînement. Un entraînement sympathique avec un superbe but de João Félix, avec 8 changements par rapport à 11 qui avaient joué au Parc des Princes. Donc, c'est-à-dire que il y a eu un vrai repos pour les joueurs du Barça. Déjà, vous vous souvenez qu'à l'année, ils avaient 10 jours de repos. Là, la plupart des joueurs ont eu une semaine de repos. Donc, c'est idéal. Il n'y a pas eu de blessés. Pedri, et c'est là l'information du soir, Pedri est rentré encore, on sent qu'il a de bonnes sensations. Donc aujourd'hui quand on écoute Xavi Hernandez aujourd'hui en conférence de presse, on sent que Pedri va être titulaire.
Ah voilà.
Voilà, on le sent. Enfin voilà. Donc on peut déjà donner le 11 quasiment. Bah après
vas-y.
Il y aura peut-être un changement.
Sachant que deux suspendus,
Christensen et Sergio Roberto. Donc tu auras Ter Stegen dans les buts. Koundé, Kubarsi, Araujo, Cancelo. Milieu de terrain, ça va te plaire, Gundogan, De Jong, Pedri, et devant.
C'est terrible.
C'est terrible.
Je pense à Julien qui nous écoute, mais tu compares les deux milieux de terrain.
Ils sont très beaux, hein. Après,
non, il y en a un qui en revoit un peu plus que l'autre.
Et en attaque, bien sûr, ceux de l'autre jour, c'est-à-dire Lewandowski, Lamine, et Rafinha qui a été l'homme du match. Donc, c'est vrai que c'est aussi un 11 pour avoir le ballon aussi, hein. Tu vois, quand t'as Pedri, De Jong et Gundogan. Donc après, je suis pas dans la tête de Xavi, hein. Peut-être qu'il y aura une petite surprise. Mais sincèrement, là, on est, alors, Pedri a peut-être pas
non, mais s'il a une heure,
sauf qu'il a fait deux bouts de match là, à Paris très bien, à Cadix très bien, ce 11 là il commence à avoir de la gueule. Donc l'erreur du PSG, c'est de ne pas avoir profité du petit retard physique de certains joueurs il y a une semaine, enfin il y a 6 jours, pour s'imposer.
Julien qui a suivi le match, évidemment supporter du PSG, comment tu sens ce duel également? La question qu'on se posait aussi à la rédac, c'est un débat qui anime la rédac d'RMC depuis le match aller, est-ce que Paris peut le faire? Comment Paris peut le faire? Est-ce que Paris est meilleur que dans l'absolu que le FC Barcelone? C'est des questions très basiques, hein, mais
non, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense que ce sera une meilleure équipe du PSG que la semaine dernière, puisque Hakimi sera titulaire et Zaïre Emery aussi. Donc
avec et Mbappé va peut-être jouer aussi.
Oui, je pense qu'Hakimi peut changer pas mal de choses, avec ballon notamment, dans la construction du jeu, dans tout ça. Ce sera en tout cas beaucoup mieux qu'un Lucas Hernandez arrière droit, comme on l'a vu, ou un Marquinhos arrière droit, selon la première période de la seconde période du match de mercredi dernier. Je pense qu'effectivement Kylian ne fera pas un deuxième match aussi terne que le premier. Donc oui, je pense qu'il y a des raisons d'espérer côté PSG, c'est sûr. Je serai au match avec deux de mes enfants aussi. On sera 3000 Parisiens derrière le PSG.
Dans le top. Magnifique, un parkage.
Non, hospitalité, on va pas avoir les gars quand même.
Comme tu dis, on sera avec 2000 Parisiens, mais c'est bon, ils se mêlent.
On chantera, mais
vous allez apprendre ce soir une expression espagnole qui est très utilisée. Todavía quedan clases. Il y a encore des classes sociales. C'est ce qu'on dit en Espagne. Quand tu dis tu vas dans le parc,
Je pense qu'en plus qu'il a déjà été un peu. T'as fait les virages au parc déjà, mon cher Julien.
Ah oui, les virages, oui, plein de fois, oui, ça. Merci.
Bon, depuis t'as changé, t'as pas embourgeoisé, c'est normal. Quand on est invité.
J'ai 43 ans maintenant.
Voilà, c'est ça. Bientôt 44. 18.
Quelques millions là-bas.
Non, mais voilà, je pense que c'est possible. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ce sera un match à voir, sincèrement. Ce sera un très joli match qui sera encore très ouvert parce que les équipes vont attaquer. Le Barça peut pas faire autrement. Ils vont pas garer le bus, comme pour reprendre l'expression qu'on utilise souvent dans l'émission. Le PSG doit attaquer pour marquer, pour gagner. Ils sont obligés de gagner de toute façon. Donc, je pense que ce sera un très beau match retour. Après, le Barça est logiquement favori puisqu'ils sont à domicile, ils ont un but d'avance. Donc, voilà, après. À quel niveau ils sont favoris? Est-ce que c'est 55-45? Est-ce que c'est 60-40? 70-30? On verra bien demain, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même pour le PSG.
La nouvelle règle, quand même, l'abandon de ce but, ça change tout parce que tu dis 4-3.
L'avantage du but extérieur.
T'as 4-3. Avant, on disait c'est fait. Voilà, parce que on n'imaginait pas marquer ton but. Voilà, mais sauf que là, voilà, moi, je trouve que. Cette réforme est vraiment hyper positive pour les matchs de Ligue des Champions. Je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui. Et
moi, après, je sais pas, moi j'aimais bien.
Le Barça, et ça c'est la chance du PSG, le Barça continue d'être une équipe fragile défensivement. Oui. C'est-à-dire c'est plus du tout l'équipe de l'an dernier. D'ailleurs, on a bien vu l'an dernier, quand le PSG accélère un petit peu, c'était quoi 4 minutes, il y a eu 2 buts de marqués. Mais c'est une équipe qui l'a aujourd'hui, quand tu regardes offensivement. Ouais. Alors, on parlait d'Mbappé. Lamine Yamal n'a pas été très bon la semaine dernière non plus.
Ouais,
c'était
vrai.
Pas le joueur qu'on attendait. C'est Rafinha.
En revanche, Araujo, dont tu parles beaucoup, l'ont découvert vraiment la semaine dernière. Il a fait un match.
Mais lui, c'est l'un des. C'est l'un des trois meilleurs défenseurs centraux en Espagne actuellement.
Quel accueil pour Ousmane Dembélé? Ce que j'ai vu aujourd'hui, qu'un média catalan, je crois que c'est Sport, c'est ça?
Ouais, Sport.
Dit qu'il ne mérite que du mépris pour son retour en Catalogne.
Oui, mais après, il y a
rapport
toujours,
à son départ précipité, il avait dit 2 mois avant qu'il allait prolonger, en plein stage aux États-Unis, qu'il quitte le stage pour venir au PSG.
Ils étaient contents de prendre l'argent aussi, donc. Non. Une partie gratuite.
Non, il y avait une clause à 40 clause, millions.
Ouais. À 40 millions, c'est ça. C'était pas. Mais bon, de toute façon, après, je pense pas sincèrement qu'il va être sifflé à chaque fois qu'il va toucher le ballon. On n'en est pas là. Les mots de Xavi Hernandez ont été bien sur lui. Voilà, c'est un bon gars en plus, Ousmane Dembélé. C'est vrai que les gens voient que il était très souvent blessé dans sa première période au Barça et qu'au PSG, il n'est pas blessé. Voilà, on va pas dire qu'il a laissé un souvenir extraordinaire, mais on va pas dire non plus qu'il a laissé un très mauvais souvenir. Puis il a jamais dit du mal du Barça vraiment, donc. Ouais, je pense pas qu'il soit la cible.
Il est parti un peu rapidement.
Oui, voilà, mais combien de joueurs sont partis comme ça? Le problème, c'est qu'il a sûrement été très mal géré au début, quoi. Mais voilà.
Il y a nombreux retards dont l'Espagne se moquait à l'époque.
Oui, voilà, mais c'était le bordel aussi au Barça à l'époque. Bon, c'est toujours un peu le bordel, mais franchement, je vois pas, c'est pas le retour de Figo, hein. Enfin, je veux dire, c'est.
Oui.
Voilà, donc, je pense pas que ça soit, il y aura des sifflets, mais ce sera pas une des informations du soir, ça.
Non, mais qu'un média, affirme et réclame le mépris pour un joueur, ça me paraît fou.
C'est l'exagération des pays du Sud, hein, même si Barcelone, c'est le nord du Sud, mais c'est. Non, je.
Média supporter.
Ouais, moi, je l'aime bien, Dembélé. Je m'entendais bien avec lui, et donc j'ai. C'est vraiment un bon gars. C'est vraiment un bon gars. Et dans le vestiaire, il a laissé un bon souvenir en plus. Donc, voilà. Enfin, il y a des. Je sais pas, un Coutinho qui revient, ou un Arthur. Arthur, par exemple, il revient, je pense qu'il serait pas très bien accueilli. Dembélé, ça devrait bien se passer.
Allez, c'est l'heure de la minute anglaise. On envoie la musique, Timothée.
Alors pour les fans de musique britannique, hein, mais gallois surtout, Super Furry Animals, l'un des plus grands groupes de rock gallois, avec Something for the Weekend, parce que c'était un week-end où on a beaucoup, beaucoup célébré, on a beaucoup bu, on s'est beaucoup amusé dans le nord du Pays de Galles. à Wrexham, puisqu'on a fêté une nouvelle promotion pour le club de Ryan Reynolds, des stars d'Hollywood, Rob McElhenney et Ryan Reynolds, bien sûr. L'histoire de Wrexham, on en a déjà parlé souvent dans l'émission. Hein. Ils avaient été promus de la 5e division à la 4e division il y a un an de ça. Et là, ils font donc back-to-back promotion, comme disent les Anglais, d'affilée les deux promotions d'affilée. Voilà, donc ils seront dans la 3e division, la Ligue 1, la saison prochaine, après leur victoire ce week-end contre Forest Green 6-0 dans un championnat un peu fou, la 4e division anglaise, parce que Stockport et Mansfield vont aussi monter directement. Ensuite on aura des playoffs, mais Wrexham, c'est quand même 10 défaites cette saison, 10 matchs nuls aussi, mais malgré tout dans un championnat qui est très compétitif, où tout le monde peut battre tout le monde finalement, ils vont encore monter. Alors bien sûr qu'il y a eu à un moment toute l'exposition des deux stars qui sont leurs propriétaires, la fameuse série aussi, l'argent injecté dans le club, hein, bien sûr, ça compte beaucoup, surtout à ce niveau-là en Angleterre. Mais voilà, bravo à eux parce que c'est quand même assez rare, et il faut le noter. Ipswich peut faire d'ailleurs pareil, de League One, Championship et ensuite en Première Ligue. Mais c'est vrai que c'est très beau de la part de Wrexham de monter encore, et puis qui sait, peut-être après aller encore plus haut.
Possible, peut-être que le plus dur commence également. Je vois que Wimbledon est également en League 2 parmi les autres clubs anglais. La montée de Wrexham. Merci Julien pour cette minute musicale.
C'était quoi, t'aimais pas mon choix musical?
Si, j'aime beaucoup. C'est très anglais, hein, très britannique,
oui,
je trouve.
Il y a pas beaucoup qui se ressemblent comme
ça. Je sais pas, Wrexham,
Roxanne. Une autre idée.
Un petit jeu de mots, Wrexham, Roxanne, Police, ça aurait été pas mal aussi, pourquoi pas.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, ça c'est grand.
J'ai fait Police l'autre jour, j'ai fait.
Ah, t'as fait Police déjà?
Bottle, je crois, l'autre jour.
Ouais, Message in the Bottle.
T'es peut-être pas là, ouais.
Message in the Bottle. Ça va, Polo? Très silencieux, hein, sur les minutes musicales ce soir. Pas d'avis, pas de.
C'est son anniversaire, là. Il est en train de faire.
Parce que Polo joue aux échecs.
Il est en train de faire le gâteau, là.
Je n'ai plus d'avis sur la musique.
D'accord. Allez, on revient dans un instant pour la suite de Génération After avec les drôles de dames. Cette question qui te concerne, Polo. Le Bayern peut-il sauver sa saison mercredi soir face à Arsenal? Le temps, le score, Grenoble-Angers, mon cher Edouard G.
Dans un match très intéressant, très vivant, avec trois grosses occasions pour Grenoble, et ben pour l'instant, il n'y a toujours pas de but. Au bout de 29 minutes, 0-0.
Et l'Atalanta mène 2-0 face à Hellas Vérone. Préparation idéale avant de jouer jeudi soir contre Liverpool. Chelsea, mon cher Julien, combien?
Ouais, ils viennent de marquer Cole Palmer à l'instant 1-0. Contre Everton après 13 minutes de jeu.
Et merci encore à David Moyes de nous avoir renvoyé Gianluca Scamacca en Italie. Merci à lui.
Très bien en ce moment. Très bien, Scamacca en ce moment. Lui qui avait failli venir au Paris Saint-Germain, on s'en rappelle, hein, il y a une saison et demie. Reste avec nous. La suite avec les drôles de dames sur RMC dans un instant.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Fred Armel, Julien Laurence, Polo Breitner et Johan Crochet. Je vous rappelle ce rendez-vous dans moins de 27 minutes désormais, le 32-16. Les auditeurs face aux drôles de dames, vous nous appelez vos questions, hein. Tout azimut, questions food bien sûr, questions sur les pays respectifs de Fred, Polo, Julien et Johan. Questions gastronomiques, n'hésitez pas aussi à le faire si vous partez ce week-end à Rome, si vous partez à Londres, si vous partez à Séville aussi, pourquoi pas à Grenade. N'hésitez pas à faire le 32-16. Voilà.
Pour manger, c'est pas vraiment le sud de l'Espagne.
Ah, moi je mange bien en Andalousie. Hein.
Non.
Attention. Hein.
Je mange pas bien en Andalousie, non.
Ah bon?
Faut aller chez Xabi Alonso à Saint-Sébastien.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, ça oui, là dans le nord, en Espagne, Madrid, on mange très bien. Dans le nord, tout ce qui est Galice, Asturies, Pays Basque. Mais les débat. C'est Séville, mais c'est pas l'endroit où on mange le mieux.
C'est un débat que t'as pas en Italie où tu manges bien.
Partout.
Alors, le Bayern. Mon cher Polo, Bayern Arsenal et Julien, bien sûr, mercredi soir. Match aller de partout. Le Bayern vainqueur. C'était mieux en Ligue des Champions, hein, c'est toujours poussif en Bundesliga, mon cher Polo. Est-ce qu'une qualif, même si elle ne va pas au bout, hein, peut changer la phase de la saison du Bayern demain, enfin mercredi? Est-ce que c'est aussi l'enjeu de ce rendez-vous-là?
Moi, j'en suis intimement persuadé. C'est aussi un vieux lion qui est blessé, qui s'est pris une véritable volée en championnat face à Leverkusen, qui a été éliminé par une équipe de 3e division en Coupe d'Allemagne. Faut pas l'oublier. Mmh. Et puis, peut-être plus important, par rapport au standing du Bayern Munich, ou tout du moins de l'histoire récente du Bayern Munich, faut juste rappeler que ça fait 3 ans déjà que le Bayern Munich n'est plus en demi-finale de Ligue des Champions. Ça, 3 quarts de finale à la suite. Et ça pose pas mal de questions parce que on n'est pas loin quand même du déclassement. Je crois que le Bayern est toujours 2e au classement UEFA, avec quelques points d'avance sur le Real, je crois. Mais c'est quand même un peu, la queue de la comète, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué cette rencontre. Et une demi-finale, j'ai envie de dire, donnerait quelques motifs de satisfaction, mais surtout pourrait un petit peu sauver la saison en disant regardez, tout n'est pas pourri et on peut essayer de construire ou essayer de se sauver de cette façon. Ensuite, on sait très bien que ce sera City ou le Real en demi-finale. Ce serait le Real, ce serait extraordinaire parce que ce serait un peu le derby européen qui serait
une nouvelle fois
en plus en demi-finale.
Mais oui,
en demi-finale. Finale,
tu sais, tu as raison, je fais un aparté. On considère que le classico en Espagne, c'est contre le Barça. Le classico en Europe, pour le Real, c'est le Bayern.
Bah ouais, mais c'est aussi pour ça, l'une des raisons d'ailleurs, pourquoi je ne suis pas spécialement un pro la Super League. Parce que moi, je ne veux pas voir chaque année Real-Bayern. Je voudrais le voir juste comme ça, quand ça arrive dans avec les boules qui sont tirées. Mais pour en revenir à la rencontre, il est évident que c'est un match très très important pour le Bayern Munich, parce que c'est la seule compétition qui reste vraiment. Le Bayern, sauf accident, se qualifiera une nouvelle fois pour la prochaine Ligue des Champions, même si c'est pas fait à cause de Dortmund et de Leipzig notamment, qui sont à 6 points. Mais je pense que le match de demain reflète en fait une volonté absolue de montrer ce qu'on appelle en Allemagne le Zellgesicht, c'est-à-dire de montrer le visage du Bayern en Coupe d'Europe. Et ça, même si Arsenal, au vu du match aller, c'est les petits jeunes qui poussent, qui sont la nouvelle attraction européenne, tout ce que tu veux, etc., et qui jouent mieux que ce Bayern-là, qui est très très loin du Super Bayern d'il y a encore quelques années, une qualification en demi-finale ferait du bien à tout le monde.
Quelle équipe alignée, mon cher Polo, après les blessures de Coman et Gnabry, voilà, on fait quoi?
C'est terrible, parce que j'ai du mal moi à plaindre souvent les joueurs de football, mais peut-être avez-vous vu les images de Kingsley blessé ce week-end une nouvelle fois, et ce qui m'a fait mal, c'est son visage. C'est-à-dire, son visage, c'est quelqu'un qui en a marre, en fait, de se blesser. Il y avait un côté l'usure du gars qui est toujours, toujours blessé. Et ça, c'est pas juste une blessure comme ça où ça fait mal, où il faut sortir, etc. Ça m'a vraiment peiné pour lui, parce que quand tu vois qu'il est au sol, tu vois qu'il en a marre, en fait.
Oui, parce que tout seul, il se blesse, en réalité, quoi. C'est son corps qui le lâche, quoi. Voilà, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Et c'était vraiment le joueur qui en a ras-le-bol d'être blessé, et c'est toujours dommage pour sa carrière. Donc le problème, évidemment, on en parlait avec Julien après le match aller, on ne savait pas si Thomas Müller allait être titulaire ou pas, vu que Gnabry s'est blessé au match aller, vu que Kingsley Coman n'est pas une option. On va changer de schéma de jeu du côté du Bayern Munich, donc on va passer en 4-4-1-1 sûrement, avec Thomas Müller derrière Harry Kane. On va décaler Moussiala sur le côté gauche, et la bonne nouvelle, c'est que Leroy Sané, même s'il n'est pas à 100%, sera notamment là. Manuel Neuer dans les buts, évidemment, qui se repose, d'ailleurs il choisit ses matchs en ce moment parce qu'il n'est pas à 100% non plus. On a des peurs de rechute, la défense centrale sera de l'ire d'hier, mais en fait on aura tout le côté gauche qui aura changé puisque Davis était suspendu. Donc est-ce que ce sera Mazraoui qui n'a pas fait un grand match ce week-end, ou est-ce qu'on mettra Guerrero qui est plus habitué à ce poste-là? Et puis il y a devant, on l'a dit, Moussia normalement à gauche, mais il y a aussi l'option telle du petit jeune. En tout cas, ce ne sera pas facile. On a fait tourner ce week-end, mardi, je sais même plus.
C'est mercredi soir, Bayern Arsenal. Très ouvert ce quart de finale. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Julien, également. Étrange défaite, il faut le préciser quand même, ce week-end d'Arsenal aussi, qui a. On ne sait pas encore si cette défaite va offrir le titre à City, mais en tout cas, elle fait mauvais genre, surtout à quelques jours d'un quart de finale retour de Ligue des Champions.
Ouais, surtout après le match nul, bien sûr, contre le Bayern quelques jours plus tôt. Ils ont fait une bonne première période, j'ai trouvé. Ils ont raté notamment une très grosse occasion, Trossard, dans cette première période. Et puis après, en seconde période, c'était plus compliqué. J'ai l'impression qu'ils avaient l'air un peu fatigués, les jambes lourdes. Ce qui est aussi qui peut s'expliquer par le match du Bayern quelques jours plus tôt, même s'ils ont eu deux jours de repos de plus que Villa, qui avait joué que jeudi contre Lille. Alors c'est pas la même intensité contre Lille que contre le Bayern, je comprends bien, mais c'est vrai qu'ils ont paru fatigués dans cette seconde période. Alors je sais pas comment ils seront physiquement mercredi, je sais pas non plus exactement quelle équipe Arteta va aligner. Je pense que ce sera une avec Jorginho qui était remplaçant hier, peut-être une avec Tomiyasu arrière gauche, je sais pas, Zinchenko, on verra. Je pense qu'Havertz retrouvera son poste de numéro plutôt 9 axial, on va dire, plutôt qu'un peu décroché comme hier. Mais oui, effectivement, la défaite d'hier, par rapport à l'impact qu'elle aura pu avoir sur le championnat déjà, et puis aussi psychologiquement, par rapport à cette période de la saison, c'était pas ce qu'il fallait pour Arsenal. Je pense que ce sera encore une fois très ouvert, un peu comme le match entre le Barça et le PSG. Ça sera un match super à suivre, à mon avis, parce que tout le monde doit attaquer. Pour le Bayern, 0-0, ça suffit pas non plus, donc ils doivent marquer. Pour Arsenal, le 0-0 suffit pas non plus, donc ils doivent aussi marquer. Donc on va avoir un match, encore une fois, je pense, assez similaire de ce qu'on a vu au match aller, avec deux équipes qui vont se rendre coup pour coup, qui vont vouloir le contrôle, la possession du ballon. Même si le Bayern peut jouer un peu en contre, Arsenal aussi. Même si le Bayern à domicile peut aussi jouer en contre. Je pense que ce sera vraiment assez fascinant à suivre. Et puis on verra. Pour moi, c'est encore une fois un petit peu en faveur du Bayern parce qu'ils sont à domicile, mais c'est encore très ouvert, du 50-50, 45 par exemple.
Ce sera mercredi soir. On sera là pour le commenter, bien sûr, et le débriefer dans l'after. La quatrième minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Timothée.
Tiendas se han cerrado para mí.
Agua. Vous voyez les frais demain dans
un. Ah, mais t'as loupé. Oh,
pardon, je suis désolé.
J'étais endormi,
je m'étais endormi.
Ah, on refait.
Non, on fait pas.
Ah non, mais c'était le meilleur moment.
Je suis désolé.
Ça y est, il m'a cassé mon cou.
Oui, mais enfin, ça faisait 45 secondes.
Mais non, mais c'est sublime.
Ah oui, il allait jamais venir le moment.
Le mec, c'est fou, quoi. 45 secondes, il chantait, les yeux fermés. Il était plus avec nous, Fredo.
Si Julien vient un peu trop vite pour toi le moment, c'est pas. Tu peux consulter. Louis Pastor, j'ai un chanteur qui a passé son enfance à Vallecas. Louis Pastor, c'est ce qu'on appelle un cantautor. C'est un cantautor, c'est auteur, chanteur, interprète. Auteur, compositeur, interprète, qui chante avec Bébé, une chanteuse de Valence. Oui, parce que c'est une expression espagnole qui dit les pluies d'avril, aguas abril, les pluies, les eaux d'avril et les fleurs au mois de mai. Oui, ben on espère que le mauvais temps qu'il y a eu sur le match, le petit derby de Madrilène entre le Rayo Vallecano et Retafe aura peut-être donné des fleurs au mois de mai, parce que là c'était tout simplement une insulte au football.
Ah bon?
Ah mais c'était, je me souviens pas d'avoir vu un match aussi mauvais et aussi peu intense, et surtout avec autant peu de professionnalisme et d'envie des joueurs. À tel point que, vous savez, les commentateurs des journalistes qui font les commentaires sur Internet, de Marca, bon, ils sont quand même là quand même pour faire du clic, ils sont quand même là pour donner envie aux gens de lire. À un moment, à la 78e minute, le commentateur de Marca a même fait un message en disant écoutez, enregistrez ce match si vous avez des enfants, parce que le jour où ils veulent pas dormir, vous leur mettez, et je suis sûr que vos enfants, ils vont faire la sieste. Voilà, c'était une honte, et je me faisais la réflexion en regardant d'un œil ce match, en plus à l'heure de la siesta, donc c'était encore pire, samedi après-midi. Vous savez, c'est en judo, quand il y a un refus de combattre, on peut prendre une pénalité, et ben là je pense que ces deux équipes, elles n'ont pas mérité les points qu'elles ont finalement obtenus. Ça les arrangeait bien d'avoir un 0-0.
Oui,
mais c'était une honte, un tir cadré pour les deux équipes, non, un pour l'ensemble du match sur 90 minutes.
Deux autres clubs madrilènes, hein, de la Liga, bien sûr.
Exactement. Hein, alors, parce que Vallecas, c'est un quartier dans la ville de Madrid, et Getafe, c'est à une 25 bornes de Madrid. C'est dans ce qu'on appelle la Comunidad de Madrid, la région de Madrid. Donc, c'est le petit derby madrilène.
Quatre villes, quatre clubs à Madrid. Voilà. On ne connaît pas ça, nous, en France. Hein. Polo, t'as combien de clubs à Munich, t'en as deux aujourd'hui, mais en Bundesliga, t'en as qu'un.
Oui, on a un. L'autre est Munich 1860, qui est le club historique de Munich, qui est en troisième division.
Ah ouais, troisième.
À Berlin, t'as.
À Berlin, il y en a plusieurs, mais les clubs professionnels, il y en a deux.
C'est ça.
L'Union et.
Ah, c'est courant que ça.
Non, de quoi Non, mais il y en a beaucoup de clubs, en fait.
Oui, mais je veux dire dans l'élite, quoi. Tu vois, comme en première ligue. Ouais.
Ah oui, non.
Baguette de clubs.
Non, mais c'est intéressant. Un jour, parce que moi, je le sais pas. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a tant de clubs anglais autour de Londres, en fait, de football, et pourquoi c'est pas plus dispersé un peu partout en Angleterre.
Pourquoi aucun ne porte le nom de Londres?
Ça, c'est une très bonne remarque aussi. Oui, c'est les quartiers d'abord.
C'est les quartiers.
Comme en avant. Ouais. Exactement.
Non, mais pourquoi c'est concentré sur Londres?
Parce que c'est grand Londres, parce que de toutes nos villes, c'est la plus grande.
Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Après, t'en as qui sont pas très loin. Watford, Luton, tout ça, c'est pas très loin non plus de Londres. Et puis après, de toute façon, plus tu montes vers le nord, par exemple, ou même vers le sud-ouest, plus t'as des clubs. On parlait tout à l'heure de la 4ème division avec Wrexham. T'as des clubs comme Barrow, je sais même pas où c'est, par exemple, tu vois. Mais t'as des petits clubs comme ça qui sont professionnels. Tu te demandes comment.
Mais c'est des petits clubs, c'est quoi? C'est à l'échelle française, ou c'est? Parce que moi, on me dit, des petits clubs en Allemagne, c'est des clubs où il y a 20 000 spectateurs de moyenne, quoi. C'est-à-dire que donc il y a une économie autour.
Oui.
Et si tu veux, si en France on avait 20 000, c'est ce qu'on a en moyenne en L1, dès qu'on descend en L2, c'est 6 000 supporters de moyenne de mémoire. Le le si tu veux, ça c'est des petits clubs. On voit très bien ce que c'est. Il y a pas de base. Il y a pas grand chose. Moi en Angleterre, c'est qu'il y a le soutien populaire qui est là, comme en Allemagne.
En plus, et oui, tu remplis des stades en plus. Mmh. Malgré la proximité des stades,
il y a une véritable économie qui se tourne autour, etc. Exactement. Enfin, on rigolait avec la buvette, mais ça existe la buvette, quoi. Les recettes par rapport à la buvette et choses comme ça. Bon. Et là, voilà, j'ai fini.
On était bien avec cette musique d'ascenseur espagnol là.
Au
coup du feu tous les cinq.
Attends, Luis Pastor, attends.
Excuse-moi.
J'ai mis des musiques d'ascenseur, mais pas Luis Pastor.
Là, c'est variétoche à fond. Ah,
hein. Tu rigoles.
Bon, allez, pause, on revient dans un instant, on fait le débat. Reste avec nous. Dans un instant, on parle de la frayeur Indica. Heureusement, les nouvelles sont rassurantes. C'est la mi-temps à venir entre Grenoble et Angers, Edouard G.
Ouais, il reste une poignée de secondes dans cette première période où il n'y a pas de but, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions, notamment pour les Grenoblois, avec même un sauvetage sur la ligne des Angevins. On a vu Loïc Nestor, on a vu Sylvestre, on a vu Manu Pérez, on a vu un poteau aussi. Mais pour l'instant, à la mi-temps, il y a 0-0, mais l'équipe la plus entreprenante, eh bien, c'est Grenoble. 0-0 à la mi-temps.
Et on revient dans un instant sur RMC. À tout de suite avec les drôles dames.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After, les drôles dames, comme tous les lundis soirs avec Johan Crochet, Paulo Breitner, Julien Laurence et Fred Hermel. C'est un peu excité, Julien, sur Chelsea et Everton. Hein. Triplé de Palmer, hein, en 34 minutes.
Incroyable. Son deuxième de la saison. Ouais. Un lob de 45 mètres après une erreur de Pickford, le gardien d'Everton, pour revenir sur les gardiens anglais, Calamity James, etc., etc. Pickford, c'est pas loin quand même non plus, parfois. Et voilà, incroyable. 3-0. Ah, mais quelle saison de Palmer.
C'est 19 buts en première ligue, la joie. C'est ça.
20e maintenant avec le triplé, je crois. 20e avec 20e le triplé.
D'accord, j'avais 16.
9 passes décisives. Ouais. Ou peut-être 19, t'as raison. 19 ou 20 en tout cas, plus 20, plus 9 passes décisives, c'est, ouais, c'est juste incroyable, quoi.
Bon. Bravo à lui. 3-0 après 35 minutes de jeu pour Chelsea. Hein. Vous le savez, 2-0 pour l'Atalanta. J'ai pas dit tout à l'heure face à Hellas Vérone. C'est la mi-temps également. Justement, on parle d'Italie, on parle de Serie A. Match Udinese-Roma interrompu après environ 70 minutes de jeu. Oui. Après le malaise du champion d'Afrique, hein, ivoirien, franco-ivoirien. Ndika, grosse frayeur. Tu viens avec des nouvelles, mon cher Johan. Aussi, d'abord, revenons sur les circonstances. Dis tout de suite que ça va beaucoup mieux pour lui.
Ouais, exactement. Qu'il est sorti de l'hôpital là en fin de journée. Alors, ce qui est étrange, c'est que tout le monde n'a pas compris très rapidement ce qui se passait autour d'Indica, puisque la Roma est en phase de possession, elle développe même une action offensive. Et pendant cela, on voit furtivement, puisque la caméra suit l'action, on voit furtivement Indica se mettre à terre. l'action se poursuit et puis après. De mémoire, le ballon sort des limites et on arrête le jeu et Evan est à terre. Il se tient la poitrine et moi j'ai tout de suite pensé à un coup qu'il avait pris en première mi-temps contre Luca, l'attaquant très gros gabarit de l'Udinese, et en fait dans un duel il lui met un énorme coup de coude au niveau du thorax, et donc je me suis dit bah c'est lié à ça en fait. Et les médecins entrent et tout de suite il y a vent de panique. La caméra part sur De Rossi sur le banc, où tout le monde s'affole, etc. On demande l'entrée du défibrillateur avec les infirmiers, les médecins du stade, puisque l'Udinese dans son stade, a réussi à faire quelque chose qui est très intéressant. C'est une vraie salle médicale qui est à 2 mètres du terrain. Donc vraiment, c'est juste à côté. C'est au début du tunnel. Vous avez la salle médicale avec tout le matériel nécessaire pour des trucs vraiment de premier secours et des choses assez urgentes. Donc on fait entrer le défibrillateur et là on voit les joueurs et le médecin de la Roma qui demande au stade de se taire. Et moi j'ai eu l'explication aujourd'hui pour en parler avec un des acteurs du match, c'est que le médecin de la Roma n'entendait pas les battements de cœur d'Evan Ndika parce qu'il y avait trop de bruit dans le stade. Et c'est impressionnant quand vous regardez les images avec l'ambiance du stade, vous avez des chants et d'un seul coup, en une seconde, tout le monde se tait. Et en fait ils font un premier diagnostic mais très rapide sur le terrain et Evan en fait il reste 1 minute 30 à terre. Tout de suite, on le met sur la civière, on l'emmène dans la salle médicale du stade où un ECG lui est fait. Et là, on repère des battements irréguliers, cherchez le terme, merci. Et on décide de l'envoyer à l'hôpital en code jaune. Alors, j'explique très rapidement pour les auditeurs.
Code jaune.
En Italie, quand vous allez à l'hôpital, il y a 4 codes possibles. Vous avez code blanc où c'est pas une urgence. Donc là, vous attendez un petit moment, un bon moment. Vous avez le code vert où c'est une urgence relative, où vous pouvez attendre et vous avez un accès aux soins quand il y a la place, en gros. Vous avez le code jaune, qui est le deuxième plus important, qui est une urgence importante,
avec un accès rapide aux soins, et vous avez le code rouge qui est l'urgence absolue. C'est la même chose qu'en France, l'urgence absolue. Donc accès immédiat aux soins, on arrête tout et on prend ce patient-là. Donc lui, il part en code jaune à l'hôpital pour faire d'autres examens. Quand donc ça c'est le côté indica, le match est d'abord interrompu temporairement. L'arbitre a été incroyablement bon, Monsieur Pairetto, très à l'écoute de la Roma notamment, de Daniele De Rossi, des joueurs, des dirigeants. L'Udinese a été impeccable aussi, qui recevait dans son stade, avec notamment Federico Balzaretti, qu'on connaît bien à RMC, qui a tout de suite dit et appuyé par Cioffi, l'entraîneur de l'Udinese, et ben nous on vous suit. Si vous le sentez pas, on arrête le match et il y a aucun problème pour nous. Le public de l'Udinese qu'on a malmené, parce qu'on avait des raisons de le malmener quand il y a eu les cris racistes, les quelques cris racistes envers Mike Maignan de certains individus de cette courbe-là, s'est comporté royalement, c'est-à-dire quand on leur a demandé de se taire, ils se sont tus. Quand le match a été définitivement suspendu parce que De Rossi allait voir Ndika, il a dit nous c'est simple, si on voit que le joueur va bien, on reprendra le match. Si on n'est pas certain qu'il aille bien, on ne reprendra pas le match. Il a été le voir, ils ont constaté que ça n'allait pas, qu'ils l'ont envoyé en code jaune à l'hôpital, ils ont dit nous on peut pas continuer. Il a fait conciliabule avec ses joueurs sur le terrain, etc. Et donc tout le monde a été vraiment, moi ce que je retiens de ça, c'est que du côté de l'Udinese et du côté de la Roma, du côté des supporters, du côté de l'arbitre, on a été impeccable de A à Z. Et ça, quand vous connaissez l'Italie, le campanilismo, les gardes clochers en gros, oui. Et tout ce qui se passe autour des stades, c'est pas toujours simple d'avoir cette unanimité et cette unisson surtout face à un événement.
Je dis également que l'Udinese, ce que tu m'expliquais tout à l'heure au téléphone, laisse le choix à la Roma. Si vous voulez, on rejoue les 21 minutes. Sinon, on les rejoue pas. Il y en a partout. C'est
exactement.
Pas grave.
Il y a
et qu'est-ce qu'il a alors? Qu'est-ce qu'il a?
Alors, il a passé t'as plusieurs raison. Examens à la Roma, à l'hôpital, à Udine. La Roma, donc les joueurs sont allés le voir tout de suite après la fausse fin de match, entre guillemets. Donc ils sont allés le voir. C'est surtout le capitaine, vice-capitaine Pellegrini, Mancini et l'entraîneur qui sont allés le voir. Les autres attendaient dehors. Il a passé la nuit en observation à l'hôpital. Ils ont refait des examens ce matin. Et la Roma a communiqué sur un traumatisme thoracique avec début de pneumothorax. Ah, donc pas lié à des problèmes cardiaques pour le moment. Sur ces premiers examens-là. Evan Indica va en repasser d'autres, c'est ce que la Roma a expliqué, on va en repasser d'autres à Rome désormais, on va attendre peut-être quelques heures avant d'en repasser d'autres, mais grosse frayeur en tout cas pour Evan Indica, et maintenant il y a un truc de se dire dans quel état va être la Roma aussi, avant même de parler de quand on va rejouer les 18 minutes qui manquent de ce match-là, enfin pas rejouer mais jouer tout simplement. Parce qu'il restait 18 minutes, il faut savoir, il y avait un partout, quand est-ce qu'on va le jouer, le calendrier c'est pas simple, etc.
Après, si c'est pneumothorax, c'est pas un problème cardiaque en fait, c'est une sorte de déchirure.
Exactement, donc
c'est sérieux. Mais je veux dire, si c'est que ça, il pourra rejouer au football sans aucun problème.
Oui, et ce qui a été très rassurant du côté d'Evan Indica, c'est que les joueurs ont tout de suite vu à l'hôpital qu'il allait mieux, qu'il était en forme. D'ailleurs, ils ont publié une photo de lui assis dans son lit.
Et donc, c'était un choc qui a provoqué le truc, a priori.
On ne sait pas ça, finalement, mais le coup de coude, je pense, que prend Evan sur un duel avec Luca, il était vraiment très, très violent. Ouais.
Bon, un joueur, voilà pour Evan Indica, les nouvelles sont rassurantes. Antoine Griezmann, phénoménal. Alors, c'est vrai qu'on en parle à peu près tous les 15 jours ou 3 semaines.
J'ai l'impression de me répéter, mais.
Je voulais signaler pourquoi il y a eu un affolement aussi, parce que j'avais pris tellement de notes que j'en ai oublié. Hier, on les fêtait pas malheureusement, mais c'était les 12 ans de la mort d'un joueur sur le terrain pour un arrêt cardiaque en Italie. C'était Morosini qui jouait en Serie B à Livourne. Et en fait, tout le monde a eu, au moment du malaise d'Indica, qui est resté conscient tout le temps, a eu en mémoire, on avait parlé depuis le début de la journée, que Morosini c'était il y a 12 ans, etc. Donc a eu un peu ce souvenir très malheureux, et donc c'est pour ça qu'il y a eu une très grande agitation aussi.
Je le disais, profitons-en pour un 42e hommage de la saison Antoine Griezmann, auteur d'un doublé ce week-end, fantastique également en milieu de semaine contre le Borussia Dortmund, chez qui il se rend, c'est demain soir d'ailleurs, 2-1 pour Al Colchonero au match aller. Voilà, il enchaîne les gros matchs.
Ah mais c'est vraiment le joueur le plus sûr de la Liga, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident parce que ça. Il y a peu de joueurs qui sont aussi importants pour leur équipe qu'Antoine Griezmann. Quand il était blessé, l'Atlético n'est pas bien. Il revient face au Borussia et c'est un festival. Et il l'emporte. Alors c'est vrai que l'Atlético menait 2-0 et qu'il y a ce but de Sébastien Haller en fin de rencontre qui change beaucoup de choses quand même, pour une possible remontada du Borussia. Mais Antoine Griezmann, je sais plus quoi dire tellement tout ce qu'il fait, c'est intelligent. il marque là, en plus là, il marque deux buts, sur pénalty après un super but. Voilà, et puis il est heureux sur le terrain. Il est heureux, il est à sa place.
Ouais.
Antoine Griezmann est à
sa place.
Il est
dans sa ville, à sa place.
Il est dans sa ville,
avec son bon coach pour lui.
Voilà, ouais. Voilà, et donc et ça peut durer très très longtemps parce que c'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à lui. Sans être un malade d'alimentation, tout ça.
Oui,
il fait très attention
à lui. Il gère ses courses sur le terrain également, de manière très habile, techniquement.
Mais comme il est plus intelligent que les autres aussi.
Il gagne de l'avance. Il gagne de l'avance.
C'est-à-dire, dans sa vision du jeu, etc., il sait exactement quand est-ce qu'il faut y aller ou pas. Et donc, voilà, j'insiste, je me répète, mais Antoine Griezmann mérite qu'on parle de lui toutes les semaines. Il m'oblige à parler de lui.
C'est vrai qu'il vient de parler aussi un jour, Antoine Griezmann, parce qu'il est assez avare en interview dans son pays, la France.
C'est pas faute d'y travailler, mon ami. Mais c'est vrai qu'Antoine, alors il parle uniquement en général il fait trois questions à la télé espagnole en fin de rencontre
il parle dans les pubs.
Comment? Ouais, en revanche, dans les pubs, il est là, t'as raison.
Dans les pubs, il sait très bien parler.
Ouais, il parle très bien dans la publicité, Antoine Griezmann.
Mais on dit pas de mal d'Antoine, c'est un amour, c'est un mec super.
Non, c'est pas du mal, c'est bien.
Mais en fait, c'est le truc, c'est que
son travail de donner aussi. Nous, on est là pour donner le temps de le micro pour des intermédiaires, des médias.
Antoine, si tu nous écoutes.
Et il le fait pas assez, c'est dommage, parce qu'il a plein d'histoires à raconter,
Mais il a plein d'histoires. En plus, les gens comprendraient le mec sympa et le mec ouvert et normal.
On le connaît pas très bien.
Mais non, c'est
après, il a le droit de pas vouloir être connu.
Mais c'est un type.
Parler foot, au moins.
Je veux dire, c'est un type normal, Antoine. C'est-à-dire qu'il est là, tu parles avec un pote, comme nous on parle à tous les cinq, lui, il sera avec nous là, il aurait l'air d'un commentateur comme les autres, quoi.
Très grosse cote de popularité en Italie, Griezmann.
Ah ouais.
Très, très grosse
cote. Bah, il connaît le foot en Italie.
Pourquoi?
Pour sa débauche d'énergie, pour sa qualité, son intelligence.
Ah, intéressant.
Le côté décisif. Il fallait entendre les commentateurs de. Le match était sur.
Par rapport au match contre Borussia,
je sais plus. Mediaset, je crois.
Pour Borussia.
Ouais, contre Borussia. Je l'ai regardé sur la télé italienne. C'est incroyable les commentaires et les compliments.
Comment faire autrement?
En plus, c'est le naturel avec lequel il fait. C'est-à-dire que t'as quand même des joueurs qui sont très bons, mais ils montrent qu'ils sont très bons. Lui, en fait, enfin, ils veulent que ça se voit. Lui, en fait, ça sort tout seul, quoi.
Non, puis c'est surtout un des rares joueurs qui allie le côté esthétique avec le côté hargneux. Et ça, c'est assez rare, parce que souvent, t'as soit les mecs, c'est des dinglingués, ils vont tacler dans tous les sens, soit t'as les mecs très esthètes qui veulent pas se salir le short. Lui, il a lié les deux à l'extrême. Ouais. C'est ça.
Même si il a été quand même un petit peu plus libéré
de tâches défensives.
Il
reste combatif.
Voilà.
Polo, tu veux
juste une petite histoire très rapidement sur Griezmann. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, c'est possible, mais je travaille aussi pour Optus, la télévision australienne. Vous pourrez me voir à l'Euro d'ailleurs
sur Optus. Il veut dire Optus, très bien.
Optus Sport, tout à fait. Et ouais, donc on fait aussi un podcast. Oui, bien sûr, on fait un podcast avec Mark Schwatzer, l'ancien gardien de but, avec Jay Boothroyd qui a joué en Angleterre en numéro 9, qui a joué pour Cardiff, et on en vient à parler de Antoine Griezmann. Tu l'as vu, ce clip?
Oui, je l'ai vu.
Et il y avait aussi Phil Kitromilides que tu connais,
vieux pote,
qui travaille pour la Liga TV, qui a travaillé pour Real Madrid TV pendant longtemps.
Bien sûr, qui est anglais d'origine grecque.
C'est ça, tout à fait.
Grec chypriote, exactement.
Et donc on parle et on en vient à parler de Griezmann et là Mark Schwarzer dit je suis pas fan moi de Griezmann, je trouve qu'il travaille pas assez dur pour son équipe. Alors j'étais en syncope et puis là Jay Boothroyd donc a quand même joué en première ligue et qui a été un bon joueur de première ligue, un joueur honnête de première ligue en tout cas, dit oui moi je suis d'accord, il travaille pas assez dur. Pour moi c'est un luxe d'avoir un joueur pareil dans ton équipe parce que il fait pas assez d'efforts, il est un peu comme Dimitar Berbatov. Alors là j'ai dit je me lève, voilà, maintenant je m'en vais.
J'en vais.
Incroyable.
Casse le contrat.
Incroyable. Ils mettent ce clip donc sur les réseaux sociaux et Grisou, notre ami Grisou, qui a dû le voir à un moment, répond sur X notamment en disant ils comprennent rien au foot avec une petite emoji de pizza. Voilà, ça l'a beaucoup amusé.
Oui.
Mais c'est dommage parce que Griezmann ne comprenait vraiment rien au foot, quoi.
Il réagit bien sur les réseaux tout le temps, mais pas assez dans les médias. Polo, pour finir.
Ouais, il faudrait vraiment faire ce débat sur les anciens professionnels dans les médias.
Ah oui.
Parce que franchement, quand j'entends ça.
Oui, c'est sûr.
Il
y en a quelques rares bons quand même, mon cher Polo. Hein. Faut pas
ils sont
tout mettre à la poubelle.
Je n'ai pas.
Et les meilleurs, ils sont chez nous.
Vas-y, Polo. Enchaîne. Bon, pause. Alors, viens dans un instant. Reste avec nous. Le 32-16, des questions. Les auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler, poser vos questions à Polo, Fred, Julien et Johan. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les 4 drôles de dames, c'est la fin des drôles de dames sur RMC ce lundi soir, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'abord, les questions au 32-16, vous nous appelez nombreux. Je vais tout de suite accueillir Alessio. Vous l'avez compris, question.
Ah, c'est pour moi.
Pour Polo Breitner. Ouais. Bonsoir Alessio.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Salut Alessio. Bon, prénom italien, ce qui veut dire que c'est pas oui. Un surnom, ton vrai prénom d'origine italienne?
Oui.
D'accord, tu appelles d'où?
J'appelle de chez moi, je suis de Versailles.
Oui, c'est bien. C'est bon de savoir, mais je suis pas de la Juve, Alessio. Alors ta question pour Johan.
Alors voilà, moi j'ai apprécié la semaine dernière que tu puisses parler de la série B et notamment de Como. Et du coup, j'oriente ma question sur un autre club de série B, Parme.
Ouais.
Et j'aimerais avoir ton avis sur Parme. Ça a l'air de bien marcher avec Fabio Pecchia.
Ouais.
Et je voulais savoir si c'est vraiment un renouveau. Pour ce que je considère quand même un mastodonte de la Serie A, s'ils vont s'inscrire sur la durée ou s'ils vont faire un aller-retour comme l'ont fait par exemple la Cremonese ou Venezia.
Alors le projet avait très mal démarré avec l'investisseur américain puisqu'il descend et qu'il y a beaucoup de mauvais choix. En fait, il a fait beaucoup de mauvais choix pour expérimenter. De plein de sortes, hein, économiques, sportifs, stratégiques, etc. Et là, Fabio Pecchia, il a trouvé quelqu'un quand même d'une très grande maturité dans la gestion des joueurs, dans la gestion des événements, dans l'affirmation d'une identité. Alors, c'est pas Pecchia, c'est l'ancien adjoint de Rafa Benitez à Madrid, à Newcastle, à Naples. Donc, c'est quelqu'un avec une certaine dimension et expérience. Et il ressemble un peu au Benitez qu'on avait à Naples, c'est-à-dire quelqu'un pas forcément ultra dogmatique, mais très enclin à s'adapter à la configuration des matchs et des adversaires. Ce qui fait que cette équipe de Parme, elle est assez caméléon et qu'elle réussit bien cette saison. Elle devrait monter. Elle a quand même beaucoup de points d'avance. Je crois qu'elle en a 8 de mémoire maintenant.
5 points sur le deuxième et 8 sur le troisième.
Exactement. Le troisième joue les playoffs, donc c'est vraiment sur ce club-là qu'il faut regarder. Le recrutement a été un peu plus ciblé. Il y a quelques joueurs qui ont mis du temps aussi à émerger. Les Dennis Mann, les Bonny, le jeune français, le Barnabé aussi qui vient de Manchester City, hein, qui a été formé au Barça, récupéré à Manchester City. Et quand Enzo Maresca vient à Parme, lui qui était entraîneur des U23 à Manchester City, il le prend avec lui et Barnabé est en train de prendre une belle dimension. Donc Parme, c'est une équipe. C'est marrant parce qu'en France, on a l'impression que c'est une équipe qui compte beaucoup dans le palmarès italien, ou qui compte beaucoup en Italie, mais elle compte beaucoup cette équipe parce que c'est dans les années 90 qu'elle s'est construite.
Oui.
Elle s'est construite déjà un palmarès. Je vais y arriver avec deux coupes d'Europe, avec des coupes d'Italie, avec une coupe de l'UEFA. Ouais. Mais vous prenez avant les années 90. Et après 2005, il y a rien en fait. Il y a très peu de Serie A, il y a beaucoup de Serie B.
Mais c'est tellement de grands noms pour nous français,
oui,
qui sont passés là-bas,
Sensini,
à Turin.
C'est surtout pour une génération. Vous prenez des fans de foot de 20 ans aujourd'hui, Parme, ça leur parle pas. Et vous prenez des personnes de 60 ans qui ont grandi avec le calcio, avec le football italien, ça leur parle pas forcément. Par contre, tous ceux de notre génération, ça leur parle.
C'est club vintage, effectivement.
Et je pense, pour terminer, Alessio, que contrairement à la Cremonese et ou Venezia, où les bases sont quand même moins fortes, Parme, t'as quand même une base de à la fois de supporters, d'infrastructures, même au niveau des joueurs, qui est beaucoup plus forte maintenant et qui devrait leur permettre, une fois montés en Serie A, de s'inscrire au moins dans la durée.
Voilà la réponse d'Alessio de Johan. J'espère que tu es satisfait. Très bonne soirée à toi. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Le temps de prendre une autre question. Hugo est avec nous. Salut Hugo.
Bonsoir Nico, bonsoir les drôles de dames.
Salut, bon. Salut supporter. Salut, du LOSC, Hugo, question pour Julien.
Exactement,
Hugo.
Bonsoir Julien.
Salut.
Évidemment, c'est une question qui va se poser sur le match retour contre Aston Villa. Parce que comme tous les supporters lillois, je suis dans les starting blocks là en ce moment, je suis à fond. Et j'ai trouvé quand même, enfin, j'aimerais avoir ton avis, que le match était étrangement équilibré quand même au match aller, et que j'étais quand même assez surpris de voir que limite on le perd contre le cours du jeu sur deux coups de pied arrêtés. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une autre prestation d'Aston Villa au match retour? Parce que je sais pas si ils nous ont pris de haut un petit peu J'ai entendu qu'après le match, tu disais « Ah bah oui, en Angleterre, ils étaient quand même assez surpris de la prestation lilloise. » Et surtout avoir des infos sur les indisponibilités, les blessures ou les suspendus sur le match retour.
Alors avant le match d'hier et la victoire à Arsenal, je t'aurais dit que franchement, après ce que j'ai vu jeudi à Villa Park, plus de possession que Villa, plus de tirs cadrés, plus d'expected goals. C'était vraiment bien, malgré c'est une défaite, hein, je comprends, je sais que c'est une défaite, mais c'était une bonne défaite. Là, je t'avoue qu'hier, ils ont quand même été impressionnants. J'ai trouvé notamment dans leur gestion du match, des temps faibles, des temps forts, surtout en seconde période. Ils ont vraiment été bons, et même sans Douglas Luiz, c'était vraiment intéressant. Donc, ça va être encore une fois très ouvert, je le répète à chaque fois, mais ça va être très ouvert aussi, parce qu'il faut que vous alliez, il faut que vous attaquiez. Mais sincèrement, ils ont beaucoup souffert contre votre jeu vers l'avant. Ils ont fait des erreurs aussi, et qui ont permis au Lost d'avoir quelques occasions. Et après, Martinez fait un match de fou. Hein. Il a encore fait un très bel arrêt hier sur Trossard. Donc faudra voir. Mais sincèrement, je pense que vous avez une chance. Après, il y a 50 000 personnes au stade, il y aura une ambiance de fou. Donc moi j'ai hâte d'y être, j'y serai au match, j'ai vraiment hâte d'y être, et je pense que vous avez une carte à jouer. Après, il faudra mieux défendre que jeudi dernier. Tu peux pas prendre des buts comme ça, notamment le premier sur la tête de Watkins, d'une naïveté assez incroyable à ce niveau-là. Ouais, mais voilà, après, sincèrement, je pense qu'il y a peut-être un coup à faire, c'est sûr.
Voilà Hugo, la réponse de Julien. J'espère qu'elle te va, elle est complète. Tu pourras le croiser au stade peut-être, Julien, parce que
jeudi,
il fait tous les stades sur les semaines européennes.
Avec plaisir en tout cas, et hâte de voir à Lille. Et puis franchement, je sais pas s'il y a eu aussi des réactions concernant le but de Gudmundsson, mais je suis désolé, on peut pas jouer au foot comme ça avec un hors-jeu au millimètre comme ça. Non, c'est bon, faut arrêter à un moment donné.
Bonne soirée, Hugo. Bon match jeudi, surtout. On sera là sur RMC également. Voilà, terminé pour ce lundi soir. La France veut savoir, Polo, comment Polo Breitner fête son anniversaire. Est-ce qu'il estime que c'est une fête, je sais pas, artificielle, non.
Commerciale,
américaine.
Une fête d'échecs.
Non, mais sortez pas des poncifs systématiquement, les amis. Non, je m'en fiche, en fait. Je ne le fête pas. Je n'ai jamais fêté mon anniversaire.
Jamais fêté. Vraiment. Bon, voilà.
Jamais vraiment, non.
Bon,
on te le souhaite encore une fois quand même.
Bon anniversaire quand même, mon cher Polo. Dans un instant, l'after, bien sûr, avec Gilbert, Daniel et Stéphane. Comme tous les soirs jusqu'à minuit, le temps, le score, Grenoble-Angers, Edouard G.
Bientôt l'heure de jeu, messieurs. Pas de but, malgré quand même quelques belles actions, notamment grenoblois, 0-0 donc.
Les drôles de dames seront là cette semaine sur RMC pour la Coupe d'Europe et de retour lundi prochain, 20h, pour les drôles de dames, comme tous les lundis soirs. Bye bye, bonne soirée à tous sur RMC.
Ciao, ciao.
Génération After.